Radio Kapi.
Le journal. Jocelyne Moussopondé à la présentation.
Justice internationale, Roger Lumbala condamné à Paris à 30 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Une décision saluée par les victimes et les ONG de défense des droits humains en RDC. Crise persistante dans l'est de la RDC. Après la prise d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, les États-Unis assurent œuvrer au respect de l'accord de paix de Washington et réaffirment leur engagement à mettre fin au conflit. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis, s'exprime sur la crise après la violation de l'accord de Washington et la prise d'Uvira par l'AFC M23. Elle est l'invitée de ce journal. Bonjour à tous. L'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala a été condamné hier lundi à Paris par la justice française à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité des crimes contre l'humanité commis par ses soldats en 2002-2003 dans l'est de la RDC. Cette décision judiciaire réjouit non seulement les victimes, mais aussi les ONG de défense des droits de l'homme congolaises, notamment Télé. La réaction de maître Guy Mouchata, coordinateur national pour Trial International, qui estime que cette condamnation est un signal fort dans le cadre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Il a été joint à partir de Paris par Alain Irung.
Nous venons d'assister à l'audience de verdict dans l'affaire Roger Lumbala, ici au palais de justice de Paris. Monsieur Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de prison avec une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Ce procès est extrêmement important parce qu'il va envoyer un message clair de lutte contre l'impunité, quel que soit le nombre d'années qui passent. On se souviendra que pendant cette guerre africaine, plusieurs Congolais ont subi des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il se compte par milliers ces victimes-là. Et jusqu'à ce jour, aucun procès n'avait mis en lumière ces exactions et pointé les coupables. Il s'agit d'une première et nous pensons que cette affaire fera tache d'huile, cette condamnation, au niveau aussi de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de justice transitionnelle.
Notez que Roger Lumbala a 10 jours pour faire appel. Il était jugé en France en vertu de la compétence universelle qui est un principe de droit international permettant à un État de poursuivre des crimes internationaux extrêmement graves, peu importe le lieu où ils sont commis, la nationalité de l'auteur ou de la victime, afin de lutter contre l'impunité et d'affirmer que ces crimes sont une atteinte à l'humanité entière. Roger Lumbala avait toujours contesté la compétence de la justice française, qualifiant le procès de braquage judiciaire et avait même refusé de comparaître. Tous nos efforts pour avoir la réaction de ses avocats n'ont pas abouti. Ici au pays, dans la province du Katanga, du Haut-Katanga, une vague d'arrestations des jeunes en rupture avec leur famille a été observée ces derniers jours à Lubumbashi. Plusieurs habitants dénoncent cette opération menée par les services de sécurité, parfois avec brutalité. Selon des témoins, des jeunes sont interpellés au hasard, sans distinction particulière, arrêtant même les innocents. Le point avec Paulin Munanga.
Les agents des services de sécurité sillonnent les artères de la ville de Lubumbashi et arrêtent des jeunes en rupture des liens familiaux. L'objectif est de lutter contre le banditisme urbain pendant les festivités de fin d'année. Cependant, cette opération se déroule dans la confusion. Plusieurs témoins dénoncent des arrestations des jeunes, parfois avec l'usage de la brutalité. Cette louchoise s'exprime. S'il croise un garçon qu'on a envoyé par exemple acheter la farine, il l'arrête. Et pour libérer l'enfant, ils exigent le paiement de 300 000 francs ou 400 000 francs congolais. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH au Katanga condamne ces arrestations qu'elle qualifie d'arbitraires et demande à l'État d'arrêter avec cette pratique car il y a beaucoup d'abus. Maître Joseph Kongolo Wamomat, coordonnateur de la CNDH au Katanga.
Qu'on arrête d'abord avec cette opération parce que la façon dont elle est menée, c'est en violation flagrante manifeste de droits humains. On arrête n'importe qui on fait la chasse à l'homme. Des opérations comme celle-ci, non seulement devaient impliquer d'autres acteurs tels que la CNDH en tant que première conseillère de l'État congolais en matière de droits de l'homme.
La police ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Les groupements Akantanda et China Kazanga, situés dans le secteur de Bambayi, territoire de Luisa, province du Kasaï central, se sont réconciliés après plus d'une décennie de conflits fonciers. C'était samedi dernier. Ce différend avait provoqué d'importants dégâts dans les deux camps. Les deux chefs coutumiers se sont retrouvés autour d'une table pour acter le retour de la paix. Pour sceller cette réconciliation, une marche pacifique a été organisée, réunissant les populations des deux groupements. Plus de détails avec André Katendenga Lamoulomé.
Ces conflits avaient entraîné de pertes en vies humaines, des pillages et l'incendie de nombreuses habitations. Malgré plusieurs tentatives de médiation menées par les autorités locales, la tension persistait. La situation a finalement évolué grâce à l'implication de Josué et Kalukuta Moussaou, ressortissants du milieu, qui a relancé les dialogues entre les deux parties. À l'issue de ces échanges, les chefs des deux groupements ont appelé leurs administrés au calme, à la cohabitation pacifique et à la solidarité.
Nous avons pris aujourd'hui la décision de nous unir comme un seul peuple. Les souvenirs de la haine, du tribalisme doivent désormais faire place à l'amour, à la solidarité et à la compréhension mutuelle. Nous disons non au combat, car nous savons qu'ensemble dans la paix, nous ferons plus.
Cette réconciliation marque un tournant important pour les secteurs des Bambayi. Elle ouvre la voie à la stabilité, à la reconstruction et au développement local. Kananga, André Katendenga Lamoulomé, Radio Kapi.
Crise dans l'est de la RDC après la prise de la ville d'Uvira au sud Kivu la semaine dernière par les rebelles de l'AFC 1-23 soutenus par l'armée rwandaise. Les États-Unis travaillent avec toutes les parties concernées afin que les engagements pris dans l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre dernier entre la RDC et le Rwanda soient respectés. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, l'a déclaré hier lundi lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Elle a réaffirmé l'engagement du président américain Donald Trump à mettre fin au conflit dans l'est du pays. D'autres détails avec Alain Irung.
L'ambassadrice des États-Unis en RDC a une fois de plus exprimé la déception de son pays après la reprise des violences dans l'est de la RDC au lendemain de la signature de l'accord de Washington en pointant la responsabilité du Rwanda. Cela ne constitue-t-il pas un échec pour l'administration Trump qui a parrainé cet accord, Lucie Tamlin?
Non, je pense que président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en RDC. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici.
Mais que vont concrètement faire les États-Unis pour faire respecter l'accord de Washington au moment où, sur le terrain, les affrontements se poursuivent? Ambassadrice Lucie Tamlin.
Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés.
Enfin, les États-Unis d'Amérique lancent un message de paix et d'espoir aux Congolais.
Sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. Mais aussi, on va continuer par la voie diplomatique d'assurer que les engagements sont respectés.
L'actualité, c'est aussi ce rappel à l'ordre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, aux médias nationaux et internationaux. Ils doivent, selon Christian Bossembe, respecter strictement les obligations imposées par l'autorité des régulations, particulièrement en cette période de crise sécuritaire. Il dit déplorer la diffusion par certains médias d'informations non officielles sur l'évolution de la situation sécuritaire, des informations susceptibles de semer la panique et la désolation au sein de la population. Il a dit hier lundi à Kinshasa en marge de la table ronde consacrée à la lutte contre le piratage du contenu médiatique. On écoute Christian Bossembe au micro d'Enoch Katumbi.
Informer, ce n'est pas juger. Informer, ce n'est pas légitimer. Aucun média national ou étranger on a le droit de devenir volontairement ou non un instrument de communication de groupes terroristes. Et dans un contexte de conflit actif, un tel acte n'est jamais neutre. Parce que l'annonce prématurée de la chute des villes, sans confirmation officielle, alimente la panique, fragilise le moral collectif et participe à la désinformation. Aucun journaliste n'est empêché de travailler. Mais travailler, c'est aussi comprendre le contexte, c'est mesurer les conséquences et assumer une responsabilité nationale.
Il faut une forte sensibilisation à l'éducation numérique pour combattre les violences dont sont victimes plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. C'est l'engagement des jeunes de Bounia lors de la clôture le week-end dernier de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Ils saluent les efforts de la MONUSCO et ses partenaires pour lutter contre ces fléaux qui restent, selon eux, un grand défi des sociétés modernes. Martial Kizabiamongo nous fait le point.
Plus d'une centaine d'étudiants de l'université anglicane du Congo IAC ont été sensibilisés vendredi dernier à Bounia aux conséquences des violences numériques faites aux femmes et aux filles. L'activité est organisée par l'ONG Organisation pour l'encadrement et le développement de la femme et de l'enfant en partenariat avec la section du JAR de la MONUSCO. Selon les organisateurs, l'objectif était d'amener les jeunes de s'approprier la lutte contre ces phénomènes de l'ampleur dans nos sociétés. Mapenzi Mavé, la 21 estime qu'il faut mettre les paquets sur l'éducation numérique dans les milliers de jeunes.
Pour commencer par l'éducation numérique.
Pour son camarade Joseph Reima, les violences numériques dont sont victimes les jeunes sont dues à l'ignorance dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il promet de sensibiliser à son tour d'autres jeunes au danger de ces fléaux qui empoisonnent la vie des nombreuses jeunes filles.
Nous avons beaucoup plus bénéficié, c'est qu'il ne faut pas partager une information pour nuire aux autres, pour menacer les autres, mais aussi pour exposer les autres.
Pour la MONUSCO, personne n'est à l'abri des violences numériques, ce qui, selon elle, demande une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Direction province du Maniema, où la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action débute aujourd'hui mardi. Selon l'autorité provinciale, le gouvernement congolais et ses partenaires ont mis à disposition 2 035 000 moustiquaires pour plus de 68 000 ménages de la province. Cette opération, couplée au dénombrement, concerne dans cette première phase 12 zones de santé sur les 18 que compte le Maniema. Un appel à la patience est lancé à la population de 6 autres zones de santé qui vont bénéficier également de ces moustiquaires dans les prochains jours pour renforcer leur protection. Florence Kizalunga, reportage.
Dans son adresse à la presse à la veille du lancement de la campagne, le ministre provincial de la Santé a rappelé que le paludisme demeure à ces jours un problème majeur de santé publique au Maniema. Selon les dernières enquêtes menées en 2024, la province a enregistré plus de 924 000 cas de paludisme, dont 2090 décès chez des enfants de moins de 5 ans. La distribution de moustiquaires imprégnés constitue l'une des principales mesures de lutte contre ces fléaux, a indiqué le docteur Kingombe Chomba Alexis.
La distribution des moustiquaires imprégnés longtemps entendue dans la province du Maniema. Nous confirmons pour ce 16 décembre 2025 dans 12 zones de santé de la province du Maniema. Les 6 autres zones de santé peuvent être patientes pour attendre incessamment les moustiquaires. La malaria constitue une grande préoccupation parce que si vous voyez beaucoup de cas de mortalité dans la province est dû à la malaria, c'est pourquoi nous sommes vraiment très préoccupés pour cette lutte-là des paludismes.
La campagne sera officiellement lancée ce mardi à la tribune centrale de Kindu en présence des autorités provinciales et des partenaires venus de Kinshasa pour accompagner cette initiative. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Revenons sur ce drame. Dans la province du Kwilu, une trentaine de morts, plusieurs disparus et des rescapés enregistrés sur une centaine de passagers. C'est le bilan du naufrage qui s'est produit le week-end dernier sur la rivière Kwango au village Bolo, dans le territoire de Bagata. Selon les députés nationaux Gary Sakata, qui a livré l'information hier lundi à Radio Kapi, la plupart des victimes sont des enseignants qui partaient pour Bandundu afin de percevoir leur salaire. Pour l'instant, les causes de ce drame ne sont pas encore connues. On écoute les explications de Gary Sakata au micro d'Alain Irung.
Ce week-end, Une baleinière a chargé plusieurs marchandises, à peu près 700 sacs de maïs et manioc, et a embarqué également une centaine de personnes, la plupart provenant des villages Kingulukapai, Bukusu, Kimpana et Fambondo en territoire de Bagata. Cette baleinière a chaviré non loin du village Bolo, au virage qu'on appelle virage Yabanganda. Après avoir cogné un truc qui serait sous le sol, s'agirait-il d'une pierre ou bien d'un gros arbre? Et ça, on ne sait pas le dire. Mais ce qui est certain, c'est que les passagers ont entendu un grand coup. Et du coup, la baleinière a commencé à s'effondrer. Et tout le monde est d'abord passé au toit de la baleinière. Et puisqu'elle s'enfonçait davantage, c'était donc le sauve qui peut. Chacun a sauté comme ce fut possible. L'on compte à ce jour une trentaine de morts et la perte de tous les bagages. Et la plupart des passagers sont soit des enseignants qui venaient récupérer leur salaire à Banondoville, mais d'autres venaient également à Banondoville pour préparer les festivités.
Au Congo central, la ville de Boma est en deuil. Senghor Mbutuibi Kwakula, maire de la ville, est décédé le dimanche 14 décembre à Kikwit, où il poursuivait un repos médical. L'information a été confirmée par la maire intérimaire, maître Claudel Pemba, qui a dit sur sa page Facebook. Senghor Mbutuibi avait été nommé maire titulaire de Boma par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le 25 novembre 2022, à la suite de la dernière mise en place dans la territoriale sur l'ensemble du territoire national.
Actualité internationale.
La guérilla colombienne del ELN, qui contrôle plusieurs régions de production de cocaïne, annonce décréter un confinement de 3 jours de la population de ces zones de dimanche 14 à mercredi 17 décembre. Elle invoque des menaces d'intervention impérialiste des États-Unis, alors que Donald Trump a averti plusieurs pays producteurs de cocaïne qu'ils étaient susceptibles d'être attaqués.
L'invité.
Notre invitée est Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Elle s'exprime sur la situation sécuritaire qui reste préoccupante dans l'est de la RDC au lendemain de la signature de l'accord de Washington. C'était au cours d'une conférence de presse organisée hier lundi à Kinshasa après la violation de l'accord de Washington par le Rwanda qui a soutenu l'AFC 123 dans la prise de la ville d'Uvira. Que vont faire les États-Unis d'Amérique? Lucie Tamlin répond dans cet entretien avec Alain Irung.
Madame l'ambassadrice, bonjour.
Bonjour.
À Washington, le jour où l'accord a été entériné, ça a suscité beaucoup d'espoir. Les affrontements sur terrain ont continué, Uvira est tombé. Il y a beaucoup de déceptions de la part des Congolais qui attendent une réponse ferme des États-Unis. Que feront les États-Unis maintenant pour changer la situation?
Vous savez que les États-Unis ont déjà fait des déclarations par le biais de notre secrétaire d'État et aussi notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Dans ces déclarations, on a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que Rwanda respecte ses engagements avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDC de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes, comme vous, déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés.
Et concrètement, madame, cela passerait par quoi? Les Congolais attendent des réponses fermes du président Trump. Est-ce que ce ne serait pas aussi un échec pour lui?
Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en RDC. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Je ne suis pas en mesure de précisément quelles seront les actions que les États-Unis vont prendre, mais assurez-vous que nous sommes en train de réfléchir sur toutes les options possibles. Dès le début, on a toujours dit que c'est une crise qui doit être résolue avec les moyens diplomatiques. Nous ne voyons pas une résolution avec les armes pour ce conflit. Donc, on va continuer d'insister sur les voies diplomatiques. Il n'est pas question d'avoir les forces américaines ici, loin de ça. Ce que nous voulons faire avec notre engagement avec le gouvernement, c'est de renforcer notre coopération davantage. Nous avons déjà une coopération pour aider les officiers à apprendre l'anglais, pour aller faire les échanges aux États-Unis. On va réfléchir à ce que nous pouvons faire pour vraiment accélérer, renforcer davantage cette coopération, tout en travaillant avec le gouvernement pour assurer que, en fin de compte, que la RDC soit une armée qui est en mesure de travailler très étroitement avec les États-Unis. Nous savons que la refonte du secteur de sécurité est une activité clé pour le gouvernement et ça va aider avec le renforcement de coopération entre les États-Unis et la RDC.
Madame l'ambassadrice, en ce moment, quel message vous lancez aux Congolais qui vous suivent à travers le pays et surtout ceux qui sont à l'Est?
Alors, le message que je voulais lancer, c'est que président Trump est un homme de paix. Il a voulu rassembler les parties prenantes pour discuter la paix, pour s'engager dans la recherche de la paix. Nous savons que ce n'est pas une voie facile, ce n'est que le début du travail et sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. Mais aussi, on va continuer par la voie diplomatique d'assurer que les engagements sont respectés.
Madame Lucie Tamlin, je rappelle que vous êtes ambassadrice des États-Unis en RDC. Je vous remercie.
Merci à vous également, Alain Irung. Vous avez coordonné ce journal qui prend fin. Et Dieudonné Lyangassa, la mise en onde. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter sur www.radiookapi.net.